Marie Grenet, ce matin, vous avez participé à la conférence « Comment favoriser le développement harmonieux de l'enfant face aux enjeux contemporains ». Vous êtes pédiatre ?
Oui, alors donc moi je suis pédiatre et je voulais être que pédiatre. Enfin, j'ai fait médecine pour être pédiatre. Hein, donc voilà, ce qui m'a toujours passionnée, c'est le petit d'homme, entre guillemets, comment se développe l'enfant, les bébés. Et donc très vite, j'ai été au cours de mon cursus universitaire et hospitalier. Donc je suis marseillaise, donc j'ai été à la fac à Marseille. J'ai été très interpellée par les prématurés, ces bébés qui se développaient hors utérus, loin des bras et du giron maternel, et ces mamans qui nous ramenaient les bébés aux urgences quand elles les avaient récupérés après le séjour en néonatologie, en nous disant « reprenez-le, il pleure tout le temps ». Et quelque part, c'était des mamans à qui on avait donné un bébé, elles n'avaient pas le mode d'emploi, et surtout l'attachement, c'était pas fait, enfin en tout cas c'était fait de façon très compliquée. J'ai fait des stages en pédopsychiatrie, je ne suis pas pédopsychiatre, et puis je me suis intéressée très vite aux travaux d'un pédiatre américain qui s'appelle le professeur Brazelton, qui est le premier qui s'est intéressé au comportement et à l'observation du bébé comme d'un langage rationnel, et qui a créé la première unité de recherche sur le développement de l'enfant. Je me suis formée, je suis partie à Boston, et puis je suis rentrée en France et je suis passée par le CNRS où j'ai fait un DEA de neuropsychologie et où j'ai eu la chance d'avoir un poste à l'hôpital et de développer très tôt, dès les années 90, le suivi des grands prématurés en accompagnant ces mamans et ces enfants. En parallèle, a été créé le CAMS de l'Hôpital Nord. Alors les CAMS, c'est les centres d'aide médico-sociale précoce, c'est des structures qui peuvent être hospitalières, associatives, privées, du médico-social, où en fait, la prévention, le dépistage, le diagnostic et le suivi et la prise en charge des enfants à risque de troubles du développement ou de handicap ou de tout ce qui fait qu'un enfant va pas se développer dans les clous parce que l'environnement n'est pas porteur, si lui-même n'est pas porteur de quelque chose déjà. Très vite, les CAMS ont été porteurs de l'accompagnement précoce, de la prise en charge précoce, des 1000 jours. Donc il y a eu une initiative de Boris Cyrulnik et que le gouvernement a soutenu, qui était les assises des 1000 jours. Et les 1000 jours, c'est les 1000 jours de la formation du cerveau, c'est-à-dire c'est la grossesse et les deux premières années, et comment en fait cette période foisonnante de structuration cérébrale, de mise en place des neurones et du cerveau et des connexions, est une période très à risque de pouvoir être perturbée, mais aussi parce que ce foisonnement fait que le cerveau est éminemment plastique, mais aussi une opportunité extraordinaire pour s'immiscer dans l'environnement de l'enfant et mettre en place les circonstances et le soutien environnemental nécessaire pour que chaque enfant développe son potentiel. En fait, on s'immisce dans ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire, on sait qu'au niveau du développement, on a la génétique qui programme notre structuration, la mise en place des organes, des cellules, et voilà, ce qui fait qu'on a les yeux verts, les yeux bleus, qu'on hérite de tout ce bagage génétique et épigénétique, parce que l'épigénétique, dans l'environnement, ce qu'éprouvent nos ancêtres, se met dans leurs gènes, et donc c'est en mouvement permanent. Mais aussi, on s'est rendu compte, et on sait maintenant grâce aux neurosciences, que l'environnement, c'est-à-dire l'épigénétique, et ça, c'est l'environnement dans son ensemble, a un impact bien supérieur à la génétique. C'est-à-dire que selon si vous avez des gènes de neurosusceptibilité d'un trouble particulier, on va dire l'autisme, même ça peut être autre chose, votre cerveau peut aussi avoir un gène de neuroprotection qui fait que vous ne développerez jamais ce trouble-là. Mais par contre, si dans l'environnement, quelque chose va interférer dans cette régulation interne, eh ben, peut-être que vous allez développer le gène de l'autisme. Enfin, votre gène d'autisme va s'exprimer parce qu'il n'est plus réprimé. Et ça, on découvre tous les jours. Et donc ça, c'est le neurodéveloppement. Mais l'environnement et l'épigénétique, c'est quoi ? C'est nos expériences, tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on éprouve, tout ce qu'on vit, les émotions. Quand elles sont positives, on sait maintenant que les neurotransmetteurs positifs, comme l'ocytocine et des choses comme ça, vont favoriser la structuration cérébrale optimale, stimuler l'attention, l'empathie et la mémorisation. Et on sait aussi que le stress régulier, soutenu, et voilà, tout ce qui va être très très délétère, ça va avoir un impact avec la sécrétion du cortisol, qui lui aussi va avoir un impact, mais l'inverse, c'est-à-dire va atrophier certaines zones cérébrales et bloquer les possibilités d'apprentissage, de mémorisation. Donc en fait, on peut en déduire plein de choses. C'est déjà comment faire pour que l'environnement soutienne le développement de l'enfant, quel que soit son niveau, quelles que soient ses capacités, ses possibilités, mais aussi comment on va favoriser une éducation qui, justement, va, c'était aussi le sujet de mon amie Sonia Delahaye, va favoriser justement cette structuration cérébrale harmonieuse, la confiance en soi, les apprentissages. Et dans l'environnement, il y a aussi des molécules, il y a aussi l'alimentation. L'alimentation, elle joue un rôle énorme. Et avec nos alimentations modernes de produits ultra sucrés, ultra transformés, ben on sait que ça a un impact. Hein. Par exemple, on sait que les pics d'hyperglycémie, c'est-à-dire quand on mange un produit très sucré, mais ce n'est pas forcément un morceau de sucre, ça peut être les céréales du petit déjeuner, le pain blanc, le riz blanc, les pâtes blanches, tous ces sucres cachés qu'il y a dans l'alimentation, on va faire un pic d'hyperglycémie qui va être suivi d'un pic d'hypoglycémie. Et ça, ça a un impact sur le cerveau, sur le comportement, sur l'humeur, sur... et dès la naissance, et même avant, in utero. Donc, il y a tout ça. Mais il y a aussi les médicaments. Il y a eu des scandales. Par exemple, on sait que la dépakine, qui est un anti-épileptique, va donner des troubles du neurodéveloppement s'il est donné pendant la grossesse. Alors que pendant longtemps, on s'est dit que c'est un produit qui n'est pas toxique et qui va être le moins toxique possible pour les mamans épileptiques enceintes. On sait aussi qu'il y a eu la thalidomide, par exemple, dont on a parlé il y a des années, qui donnait des enfants qui naissaient avec qui manquait un membre. Donc, il y a plein de choses qui sont comme ça. Et puis, dans l'environnement, il y a les perturbateurs endocriniens. Tout peut avoir un impact, et donc ça nous dit aussi des choses du principe de précaution, de comment il faut faire attention à tout ce qui se passe dans l'environnement. Et même maintenant, on se dit, même avant, c'est-à-dire que l'année avant la conception, il y a certaines choses qui peuvent interférer dans ce qui va se passer. Donc c'est passionnant. Moi, je trouve ça très exaltant parce que quand on comprend les mécanismes et qu'on s'immisce de façon positive dans l'environnement des enfants par la prise en charge, par l'éducation, par l'accompagnement des parents, par une meilleure alimentation, un meilleur environnement, bah là, on lance la dynamique positive et on a des outils, c'est-à-dire que rien n'est jamais fichu. Hein. Voilà, et c'est ça qui est fabuleux et qui est le métier le plus passionnant du monde, celui que j'ai fait, évidemment.
Tout reste à faire.
Ouais.
Vous évoquiez tout à l'heure la relation éventuelle entre le glyphosate et l'autisme.
Alors, il y a certaines études en neurosciences qui ont démontré que si on exposait des rats gestantes au glyphosate, il y avait une proportion de ratons autistes supérieure. Vous comprenez bien que scientifiquement, on ne va pas prendre des femmes enceintes qu'on va exposer au glyphosate et voilà, pour comparer. Donc, on en a des gros soupçons. Mais l'autisme, c'est aussi multifactoriel. Il y a plus de 60 gènes de l'autisme. Donc, où est-ce que ça va taper, à quel endroit et comment? Dans l'environnement, il y a aussi des perturbateurs endocriniens. Il y a plein de choses. Vous savez très bien que l'eau du robinet qu'on boit ne filtre pas les hormones de la pilule qu'urinent les femmes sous pilule, les antibiotiques, les anti-inflammatoires. Donc, c'est vrai que mieux filtrer l'eau, par exemple, ça, c'est aussi quelque chose. Donc, on ne peut pas accuser une chose précisément. C'est multifactoriel, c'est un terrain, c'est une personne qui va réagir d'une certaine manière à certaines choses de l'environnement. Et c'est pour ça que c'est complexe, mais passionnant.
Complexe et passionnant.
Ouais.
Vous disiez, mais il y a eu beaucoup d'avancées, vous faites partie de ces personnes qui cherchent. Vous disiez tout à l'heure, avant, on disait le nouveau-né est un tube digestif qui n'entend pas et ne voit pas.
Oui, tout à fait. En fait, c'est le cours que j'ai eu, moi, en pédiatrie à la fac, et par une neuropédiatre que j'aimais infiniment et que j'ai vraiment adoré parce que c'était une femme extraordinaire. Mais comme le cerveau, à la naissance, n'est pas adultomorphe, on va dire, hein, ça, parce que les lipides du cerveau, la fameuse myéline, la myélinisation n'est pas complètement achevée à la naissance. Et pendant très longtemps, la médecine a raisonné en si le cerveau n'est pas intégralement myélinisé, si ce n'est pas un cerveau d'adulte, ça veut dire qu'il n'est pas capable, qu'il ne sent pas, qu'il n'entend pas. Je vous parlais de la vision, parce que la vision, c'est le sujet de mon BEA de neuropsychologie. Pendant longtemps, on a cru que les bébés étaient aveugles pour une raison simple, c'est que le cortex visuel n'est pas activé à la naissance. Mais maintenant, on sait qu'il y a des structures intracérébrales qui soutiennent la vision, une vision utilitaire, intelligente, c'est-à-dire que... Si vous voyez net à la naissance, comme vous n'avez jamais rien vu pendant la grossesse, vous devenez fou. Donc je pense que c'est vraiment du génie de la création de faire que les bébés voient flou, parce qu'au début, ils ne voient flou, mais moins flou à 20-30 cm. Et donc, ils reconnaissent le visage de leur mère parce qu'ils sont câblés pour le reconnaître. Vous présentez un bébé plein de cibles contrastées parce qu'il voit très bien les contrastes. Et c'est le visage avec deux yeux, un nez, une bouche dans le bon sens et pas dans le désordre. Donc, avec la même quantité d'énergie visuelle, mais dans le bon ordre, que les bébés suivent plus longtemps et plus loin. Donc le bébé, il est câblé pour repérer sa mère, il connaît sa voix, il connaît son odeur, et il la repère dans l'environnement. En 48 heures de vie, un bébé sait reconnaître le visage de sa mère sans la voix, sans l'odeur. Et donc tout ça, ça faisait dire que comme le cerveau n'est pas fini, la vision ne marche pas. Non, maintenant on sait que oui, et que c'est même fondamental. Mais si un bébé voyait net à la naissance, il deviendrait fou. Qu'est-ce qui lui dit que sa mère, ce n'est pas la lampe du plafond, ce n'est pas l'obstétricien ou le pédiatre ou Vous voyez. Et donc c'est pour ça que c'est juste génial. Le bébé voit flou, de moins en moins flou. Au début, il voit sa maman, son papa, ses frères et sœurs, le berceau, la chambre, le monde. Et à 6 mois, il voit aussi net. Donc personnellement, en tant qu'expert du développement, un bébé avant 6 mois ne devrait pas être en collectivité parce qu'il a besoin de progressivement s'approprier. Voilà.
Vous réalisez des bilans pour les enfants ?
Oh là là, mais j'en ai fait. On a plein d'outils à notre disposition. Bah, déjà, on a appris en tant que médecin à faire un examen neurologique. Alors, à Boston, j'ai appris à observer le bébé et alors pas faire un bilan avec des notes, juste à établir un profil et voir là ça, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. Après, on peut faire un bilan posturomoteur, comment il se tient, comment il se porte, quelle est sa posture, est-ce qu'il est bien enroulé, parce que c'est la posture enroulée qu'on a finalement, parce qu'en fait, on n'est pas droit. Hein. Plaquez-vous contre un mur et vous verrez que vous êtes là, vous êtes droite, vous respirez plus, la cage thoracique est bloquée et tout bruit, toute lumière devient hyper violent à réceptionner. Alors que vous y détachez du mur, tout d'un coup, vous vous retrouvez légèrement en cuillère, même si on ne s'en rend pas compte, mais on est un peu enroulé. Et là, tout d'un coup, le bruit, la lumière, le thorax est libéré, on respire bien. Et le bruit, la lumière, les sons et tout ça, on les intègre et on les digère et on en fait quelque chose. Donc un bébé qui est trop en extension parce qu'on le met debout pour s'amuser, parce qu'on croit qu'en entretenant le réflexe de redressement, on lui fait plaisir, alors que c'est un réflexe et qu'il n'a pas le choix, et ben c'est un bébé qui est en extension et qui est toujours sur le qui-vive parce que tout est violent et agressif, alors que si on le laisse enrouler, qu'on le porte, qu'on le sécurise, et il y a tout ça qui est à prendre en compte, donc c'est observé, puis après ben, il y a des spécialistes, on fait des bilans, des interactions, on pose des questions, mais je crois que principalement, en tout cas moi, de ce qui fait que, parce que j'ai arrêté, j'ai pris ma retraite, donc j'ai 65 ans, je prenais un petit bout de ci, un petit bout de là, qu'est-ce qui est pertinent pour ce bébé-là, je ne crois pas à la médecine prêt-à-porter. C'est pour ça que les recommandations qui s'appliquent à tout le monde, pour moi, c'est une aberration. Chaque individu est différent et c'est du sur-mesure. C'est ce bébé-là, dans ce contexte-là, qu'est-ce que cette maman-là est, ou ce papa-là est prêt à entendre et à recevoir? Comment il va pouvoir comprendre ça pour se l'approprier et l'appliquer, plutôt que moi, j'arrive en disant « faites ci, faites ça ». Et soit il est soumis et il va dire « ouais, ouais, mais ça correspond à rien », soit il est rebelle et il dit « mais cause toujours, moi je sais mieux que toi ». Cette relation qui est « on trouve ensemble ce qui est mieux pour vous et on vit et on est une équipe et pas hein, une relation verticale », c'est la loi. Enfin, c'est la loi, c'est ce qui fait que ça marche.
Les partenaires.
Ouais, exactement. Les parents sont nos partenaires. Le bébé est un partenaire, on l'oublie. Et le soignant ou le thérapeute ou l'intervenant est un partenaire aussi. On amène chacun quelque chose, mais le bébé nous apprend de lui, les parents nous apprennent d'eux. Le bébé apprend aux parents et aux soignants ou à l'intervenant. Et nous, on apprend d'eux, ils nous apprennent et on sort de là dans une espèce de dynamique positive qui fait du sur-mesure mais qui fait que ça marche.
Vous évoquiez tout à l'heure la méthode globale au niveau de...
Ah, ça c'est à l'école. En fait, moi, c'est vrai que j'étais petite. Ma maman, à l'époque, l'école n'était pas obligatoire avant 6 ans. Ou même après, je ne sais plus. Et ma maman, j'étais sa fille aînée, elle attendait qu'une chose, c'était d'avoir... des enfants, et donc elle m'a appris à lire, à écrire avec la fameuse méthode Bocher, donc je vois encore le bouquin, et donc comme je suis du mois de mars, et ben à Pâques je savais lire et je suis rentrée à l'école à 6 ans, c'est-à-dire en avril, mais comme je savais lire, écrire et compter, ben, j'ai continué comme ça, et quand mes enfants sont rentrés à l'école et qu'on a commencé à leur parler de méthode globale, qui est en fait une méthode photographique, c'est-à-dire qui a écrit Coca-Cola, Caca-Cala ou Coco-Colo, pour eux ils voient le logo et ils pensent que c'est Coca-Cola, mais c'est de la photo, c'est pas de la lecture, donc on nous dit ouais mais tu comprends, ça les stimule parce qu'ils ont l'impression de savoir lire et ça les motive. Bah oui, mais sauf que quand j'étais au CNRS dans le cadre de mon DEA, ma directrice de mémoire, mais un jour elle s'est mise dans une colère noire en disant mais enfin la méthode globale c'est n'importe quoi, le cerveau il fait peu et à pas et de toute façon il est obligé de passer par là. Et ce qu'il y a, c'est qu'un enfant qui est, on va dire, ce que j'aime pas, pardon, trouble de neurodéveloppement, c'est-à-dire bon, il y a des développements différents et il y a une espèce de d'arc-en-ciel, de spectre où il y a ceux du milieu, et donc il y a des neurotypiques et les neuroatypiques. Un enfant neurotypique, il va faire peu et à pas dans sa tête. Le neuroatypique, il est paumé. Moi, j'ai eu une fille dyslexique et c'était très compliqué. Maintenant, elle est psychologue, elle a eu un bac mention bien, elle s'en est sortie vraiment hyper bien, mais ça a été compliqué et il a fallu trouver d'autres stratégies, qui est le boulot des neuropsychologues et des orthophonistes. Mais que de peine, moi, je ne crois pas qu'il y ait des enfants paresseux ou feignants. Il y a des enfants qui sont en chagrin d'école, comme Daniel Pénac le dit, pour qui c'est compliqué, c'est cérébralement épuisant d'arriver à faire la même chose que les copains parce qu'ils n'ont pas les mêmes réseaux neuronaux et ça prend beaucoup plus de temps et ça les épuise.
Il y a l'humiliation aussi que ces enfants subissent.
Ma fille, un jour, elle revient, elle était en 6e, zéro d'orthographe, avec écrit entre parenthèses, moins 26, des progrès. Quel langage passif-agressif, et voilà. Et donc là, j'ai fait, non, mais là, cette école-là, c'est fini, quoi. Et je l'ai changé d'école. Et elle a cassé la baraque, mais elle était dans d'autres conditions, avec des... Voilà. Et la prof croyait bien faire. C'est la même qui m'a dit, votre fille est absolument géniale, mais ici, on va vous la casser, enlevez-la de chez nous. Mais c'est la même qui écrivait ça. Donc il y a des espèces... Je pense que personne ne veut mal faire, franchement. Aucun médecin ne veut mal faire, aucun enseignant veut mal faire. Mais c'est juste qu'ils font le mieux qu'on peut avec les éléments qu'on leur a donnés.
Il y a des progrès, parce que maintenant, pour les enfants ou les étudiants dyslexiques, on leur accorde un peu plus de dents.
Oui, c'est parfois compliqué d'avoir le tiers-temps. Hein, parce que la médecine scolaire, c'est une catastrophe, parce qu'elle est... Il n'y a plus de médecins scolaires, il n'y a plus d'infirmiers scolaires et tout. Pour avoir un tiers-temps, du temps de ma fille, donc c'était il y a une dizaine d'années, le médecin, il n'y avait pas de médecin scolaire dans les Bouches-du-Rhône, il fallait aller à Avignon. Et puis elle était saturée, donc on n'a pas eu le tiers-temps. Mais finalement, elle s'en est sortie sans. Mais par contre, nous, on a investi dans la remédiation neurocognitive, et qui l'a énormément aidée, puisque maintenant, elle est psychologue. Hein, donc voilà. Mais ça a été compliqué.